voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et ce soir, je vous rappelle que nous parlerons du Togo, libre mais pas tout à fait. C'est le sort de deux opposants togolais récemment sortis de prison après une vingtaine de jours de détention. On en parle après décryptage sur la Centrafrique où inquiétudes et doutes persistent à propos de l'élection couplée du 27 décembre prochain. Écoutons.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Vladimir Montero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la MINUSCA, c'est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Le double scrutin législatif et présidentiel de dimanche en Centrafrique pourra-t-il se tenir? Et si oui, dans quelles conditions sécuritaires?
Les élections vont se tenir dimanche. Nous travaillons tous, c'est-à-dire la mission, la communauté internationale, pour appuyer les autorités centrafricaines dans l'organisation de ce scrutin extrêmement important. Il y a certes des problèmes dans la partie ouest de la Centrafrique, avec des attaques menées par une alliance de groupes armés anti-Balaka et Xeleka. Le mentor serait l'ancien président François Bozizé. Mais dans d'autres localités du pays, dans le centre, dans l'est du pays, les électeurs continuent à retirer leurs cartes. L'autorité nationale des élections continue à déployer les derniers matériels pour que ces élections aient effectivement lieu dimanche prochain.
Avez-vous des informations précises sur une éventuelle implication ou complicité de François Bozizé dans les violences actuelles?
Ces attaques simultanées et coordonnées ont été lancées après l'invalidation de la candidature de l'ancien président, après une série de rencontres et de déplacements de l'ancien président, des rencontres avec des leaders de groupes armés. Et c'est cela que la communauté internationale à travers le G5 a tenu à dénoncer. Ce sont ces engagements auprès des groupes armés qui ont entraîné une alliance, et cette alliance est en train de vouloir perturber le processus électoral.
François Bozizé sera-t-il donc arrêté?
Je ne peux répondre à cette question. En ce moment, nous sommes engagés dans le processus de sécurisation dans cette partie ouest du pays. Nous avons des casques bleus qui ont été déployés à Bosembele, Bosemtele, à Mbaïki pour appuyer les FACA, les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité intérieure. Nous continuons dans ce processus pour sécuriser les élections et s'assurer que dimanche, les centrafricains, qu'ils soient de l'ouest, du centre ou de l'est, puissent voter.
Vous dites que les partenaires de la Centrafrique soutiennent la tenue de l'élection dimanche prochain, mais une partie de l'opposition menée par Anissé Georges Dologuélé demande le report de ce scrutin.
Et la tenue de ces élections est d'abord le souhait des Centrafricains. Ils ont été 1 800 000 à aller prendre leur carte d'électeur. Aujourd'hui encore, nos collègues dans les bureaux régionaux nous parlaient de l'affluence dans certaines villes, y compris de l'intérieur, des électeurs qui vont récupérer leur carte d'électeur et pouvoir voter. Ça veut dire que cette volonté d'aller aux urnes est d'abord l'expression des Centrafricains. Il n'y a pas de place pour une nouvelle transition. Ce que beaucoup d'acteurs cherchent dans cette tentative de perturbation du processus électoral.
L'ANE, l'autorité nationale des élections, qui connaît des querelles internes et dont le nouveau bureau est installé seulement mardi à quelques jours de l'élection. Ne peut-on pas mettre en doute la qualité de la préparation et de l'organisation de cette élection couplée?
Le processus électoral a été initié en pleine pandémie de Covid, pandémie qui frappe toujours la Centrafrique comme d'autres pays de la planète. Malgré ce contexte sanitaire, cette autorité nationale des élections a pu procéder à la cartographie, procéder à l'enrôlement des électeurs, elle a réceptionné le matériel électoral, qui a été envoyée dans différentes préfectures. Elle travaille avec les partenaires, la MINUSCA, le PNUD, l'Union européenne et d'autres pays. Tout se passe bien. Nous avions, lors de la désignation des nouveaux membres, la MINUSCA avait appelé à ce que l'ancienne et la nouvelle équipe travaillent en parfaite syntonie.
Il n'y a pas... 4 jours à peine de l'élection.
Oui, mais il y a une continuité. Il y a une continuité de la désignation de ces membres a été faite depuis longtemps. Ils sont connus, ces membres, mais il n'y a pas de perturbation du tout de ce processus. La preuve, cette autorité nationale des élections est en train de procéder à la distribution des cartes.
Les forces russes sont-elles présentes en Centrafrique, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazadi?
Écoutez, il faudra vous tenir au communiqué du gouvernement. Nous, on communique pour par rapport aux actions de la
ministre. Vous êtes chargé de la sécurité du processus, donc s'il y a les forces russes, vous devez le savoir et peut-être travailler avec elles ou pas pour sécuriser ce scrutin.
Nous ne sommes pas chargés de la sécurisation, nous sommes en appui, nous sommes là pour appuyer la police et les forces armées centrafricaines dans ce processus.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h10 à Paris, 17h10 en temps universel et à Lomé au Togo. Nous parlons ce soir de la liberté conditionnelle accordée à 2 opposants togolais avec nos invités, Dr Edem Atsukwasi, coordonnateur général et de la dynamique Monseigneur Pozro. Dr Kwasi, bonsoir.
Bonsoir Madame la journaliste.
Merci d'être avec nous. Merci également avec vous David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Bonsoir. Pas encore en ligne. Fabrice Péchezi, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral, bonsoir.
Bonsoir.
Et je signale que nous avons contacté Akoda Aye-Wadam, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement togolais, qui nous a dit qu'il ne pourra malheureusement pas prendre part à ce débat. Il a affirmé qu'il avait d'autres engagements qu'il devait honorer et a présenté ses excuses. Donc le gouvernement togolais ne sera pas représenté à ce débat. Néanmoins, nous allons débattre avec vous, messieurs. Je commence par vous, David Dossé. On a beaucoup entendu la société civile lors de l'arrestation des 2 opposants. À quoi doit-on finalement leur libération 20 jours après leur arrestation? Allô? Monsieur Dossé? Non, pas encore. Docteur Kwasi, vous êtes là?
Je suis là, madame la journaliste.
Les 2 opposants appartiennent à votre plateforme. Vous êtes également mobilisé pour leur libération. Mais est-ce que c'est grâce à cette mobilisation qu'on doit leur libération conditionnelle?
Tout d'abord, je voudrais apporter un éclaircissement. Je représente à cette émission le gouvernement légitime du Togo, dont je suis le ministre d'État, ministre des relations extérieures, de l'intégration africaine, des Togolais de la 6e région, chargé des institutions, des relations entre les institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Donc c'est à ce titre que je participe à cette émission. Bien évidemment, je suis le coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Pozro. Et comme vous le dites...
Pardonnez-moi, docteur Kwasi. Alors, je veux bien être sûr qu'il n'y a pas eu erreur sur votre présentation. Vous dites que vous représentez le gouvernement du Togo et en même temps, coordonnateur général de la dynamique Monseigneur Pozro.
Ma légitime du Togo que je représente. Le Togo a aujourd'hui 2 gouvernements. Il y a un gouvernement sortant, illégitime et de fait, qui s'impose aux populations, dont le porte-parole, vous venez de dire son nom, un certain Iwada, a décliné sa participation à l'émission. Et il y a le gouvernement légitime à qui le peuple, souverain peuple togolais, a conféré...
Vous êtes dans la logique de la contestation de la réélection de Fornia Simbé. Donc, on va dire, vous représentez le gouvernement fantôme.
Je représente imposant le gouvernement légitime du Togo, c'est-à-dire le gouvernement qui est issu du vote des Togolais.
D'accord, mais on a compris très bien. Je crois que cette clarification était importante. Mais poursuivez en répondant à ma question, docteur Kouassi. Donc vous représentez la coalition dynamique Potsro, même si vous réclamez votre propre gouvernement. Alors, à quoi est-ce qu'on doit cette libération des deux opposants qui ont été arrêtés pendant 20 jours? Il y a eu cette mobilisation aussi de la société civile, de votre mouvement auquel les deux opposants appartenaient. Amnesty International a également dénoncé les arrestations. Même au sein de la famille de la majorité présidentielle, ces arrestations passaient mal. Mais finalement, est-ce que c'est tout ça qui a permis qu'on obtienne la liberté provisoire pour ces deux opposants?
Oui, il y a toute cette conjonction de levée de boucliers. Il faut relever que cette kidnapping, il faut dire les choses par leur nom, cette kidnapping est fondée sur un dossier vide. La vacuité du dossier sur le plan judiciaire a été relevée. Le conseil de nos camarades a enlevé et torturé pour Gérard et a publié tout au long de cette procédure, tout au long de ces 3 semaines, au moins, je pense, 5 à 7 communiqués. Et à chaque étape de ces interventions, il relevait la vacuité du dossier au niveau sur le plan judiciaire et pénal. Maintenant, il est clair que c'est kidnapping. Ont suscité dans l'opinion nationale un émoi. Les gens ont alors pris conscience que ce qui est en train d'arriver aux responsables de la dynamique Monseigneur Potsro, puisque la persécution judiciaire des responsables de la dynamique Monseigneur Potsro a commencé au lendemain de la proclamation frauduleuse de la présidentielle par la CENI qui a inversé les résultats. Donc, on a connu plusieurs d'entre nous. J'ai moi-même mon oncle qui était le conseiller à la logistique du président, qui a été kidnappé, violenté devant sa femme et ses enfants le 9 mars. Ils ont voulu m'enlever moi-même. On a dû m'exfiltrer du Togo. Après, c'est le président, le monde entier sait dans quelles conditions on l'a arrêté le 21 avril avec des collaborateurs. On a criminalisé un contentieux électoral.
Merci beaucoup, docteur Kouassi. On va évidemment revenir à vous tout à l'heure au cours de ce débat. David Dossé, vous êtes là? Allô? On me fait pourtant signe qu'il est avec nous, mais manifestement, il ne nous entend pas. Fabrice Pétiesi, vous m'entendez?
Moi, je vous entends, je suis là, je vous entends.
Je ne sais plus à qui je m'adresse, c'est Fabrice ou David Dossé. C'est à David Dossé qui parle. Dossé. D'accord.
Oui, tout à fait.
J'essaie de commencer en permettant aux uns ou aux autres de comprendre qu'est-ce qui a milité en faveur de la libération des deux opposants. Mais je mentionnais aussi le fait que même au sein de la famille de la majorité, cette arrestation ne passait plus. On a entendu Gilles Chris Olympio, qui est pourtant allié du pouvoir depuis 2010, dénoncer ces arrestations. Est-ce que pour vous, c'est un signe que les arrestations d'opposants passent de plus en plus mal au Togo?
Alors, une chose de certaine, c'est que cette situation est la manifestation de l'instrumentalisation de la justice. Tout le monde est convaincu, tout le monde a compris qu'au Togo, la justice est le bras armé du régime au pouvoir. Et pour cette fois, vraiment, la tribune n'est plus passée. Effectivement, vous l'avez dit, ça a suscité un tollé au sein de l'opinion, au sein de la société civile, au sein des partis politiques d'opposition, même au sein des partis qui ne font pas partie de la dynamique Monseigneur Potsro, de laquelle sont issues ces deux personnalités. Et même, comme vous l'avez dit, des personnalités proches du pouvoir ont clairement manifesté leur désapprobation.
Et quelle est l'interprétation que vous faites justement de ce mécontentement exprimé même par les alliés du pouvoir? Est-ce que pour vous c'est une légère avancée? Est-ce que cela signifie que les lignes bougent petit à petit?
Alors, en tout cas, ça a démontré que les esprits ont été choqués par cet acte de justice qui consistait à prendre deux opposants sur des prétextes, des arguments totalement fallacieux. Et lorsque nous avons rencontré la communauté diplomatique dans son ensemble, les diplomates nous ont tous dit la même chose. Lorsque nous avons rencontré les autorités gouvernementales, nous avons demandé des éléments de preuve et nous avons compris qu'il n'y avait aucun élément de preuve dans cette affaire. Donc, je crois que aujourd'hui, il est clair que nous avons beaucoup subi au Togo. La justice, elle peut se permettre de faire beaucoup de choses, mais il lui sera, je l'espère en tout cas, de plus en plus difficile de poser des actes, tout simplement pour répondre aux injonctions du régime.
Merci, monsieur Dossé.
On peut dire que les lignes ont un peu bougé, mais pour nous, pas assez, puisque nous avons décidé de mettre en place un comité afin de davantage parler de ce problème d'instrumentalisation de la justice au sein de l'opinion. Il faut que ça devienne un vrai problème de la nation, qu'on en discute partout, pour amener le procureur, les juges à prendre conscience du fait que la justice doit être autonome et que la justice ne peut pas être ainsi inféodée au pouvoir exécutif.
Merci beaucoup. Mais je voulais donner la parole à Fabrice, qu'on a perdu malheureusement. Mais je vais rester un peu avec vous, monsieur Dossé. Vous dites qu'on a instrumentalisé la justice, mais d'après les autorités togolaises, ses opposants avaient appelé à manifester le 28 novembre contre le troisième mandat du président, le quatrième mandat, pardon, du président Faure Gnassingbé, alors même que les instances électorales ont déjà annoncé qu'il avait gagné ce scrutin. Et deuxième élément, on est en plein contexte de coronavirus où il y a des restrictions.
Alors une chose aussi est évidente, c'est que lorsque l'appel à manifestation avait été lancé, les autorités gouvernementales ont répondu par la négative. Et je crois que la dynamique de Mgr Kodjo a rencontré le G5, qui représente un peu la communauté diplomatique, et il leur avait été demandé de sursoir à cette manifestation. On ne leur a même pas laissé la possibilité, je crois, d'annoncer le report ou la suspension de la manifestation, puisque c'est en sortant de cette rencontre que M. Tchossou, lui, a été enlevé en pleine rue, dans des conditions totalement inadmissibles. On ne va peut-être pas revenir là-dessus ici, mais c'est pour dire que l'intention a suffi pour qu'on parle d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ce qui est totalement incompréhensible et inacceptable.
Et groupement de malfaiteurs.
Le Togo n'est pas le seul pays à souffrir de la pandémie du coronavirus, mais nous avons vu que lorsque la nation est en danger, les populations ont manifesté dans plusieurs pays en dépit de la pandémie pour dire que la nation est en danger et que ce danger n'est pas celui de la pandémie.
Merci, monsieur Dossé. Alors, docteur Kouassi, comment interprétez-vous cette libération provisoire aujourd'hui? Est-ce que cela signifie que vos membres vont désormais surveiller leur langage, marcher un peu comme sur des œufs et éviter de faire des déclarations qui pourraient amener à de nouvelles arrestations?
La question que vous me posez est pertinente. Je voudrais un peu la retourner sous une forme avant de répondre. En tant que journaliste, si on vous dit que vous restez journaliste sans parler, est-ce que vous pouvez encore exercer votre profession?
Je ne sais pas, je ne fais pas partie des débatteurs, docteur Kouassi. Je ne saurais vous répondre.
Okay. Donc, vous voyez, voilà des hommes politiques à qui on accorde une liberté conditionnelle, d'ailleurs sur un dossier vide, il faut toujours insister là-dessus, et cette liberté conditionnelle même viole la constitution de la République togolaise. Pour preuve, Maître Kondé Adjaré, qui a été par le passé président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, a sorti un communiqué de presse pour relever comment le code pénal togolais est violé par la posture du procureur de la République. Donc, la charte des partis politiques notre constitution qui autorise, accorde la liberté d'expression, la liberté d'opinion, sont violées par cette posture.
D'accord. Répondez directement à ma question. Pour vous, quand on parle de libération provisoire, vous entendez quoi? C'est-à-dire une pause dans votre bataille, ou vous comprenez qu'il faut poursuivre le combat, il faut continuer à aller dans le sens des actions qui ont amené vos membres en prison?
Madame la journaliste, il faut une pédagogie dans la question dont nous parlons. Parce que quand on parle de liberté conditionnelle, ça signifie quoi en termes de droit? D'abord, ça, il faut comprendre ça.
Oui, c'est-à-dire, cela signifie, entre autres, qu'ils ont l'obligation de déférer régulièrement aux convocations de la justice. On mentionne aussi qu'ils ne sont pas autorisés à quitter le territoire national et qu'ils doivent aussi se présenter au greffe du tribunal tous les 15 jours. Voilà les restrictions qui accompagnent cette liberté provisoire. Est-ce que vous entendez vous soumettre à ces restrictions ou pas?
Voilà. Vous avez oublié quelque chose d'important dans les restrictions, peut-être on ne vous l'a pas dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur
les sujets qui vous ont conduit en prison.
Mais allons-y. C'est là, c'est pour ça que je vous convoque la constitution togolaise, le code pénal togolais. Parce que si on convoque le droit, le professeur Dosset vient de vous le dire, l'instrumentalisation de la justice qui est caporalisée à cette dictature de plus de 50 ans, la vile dictature que l'humanité connaît, fait que on est dans un état de non-droit. C'est-à-dire,
merci.
Les tests qui sont là, les tests sont pervertis. Donc, la Constitution dit quelque chose. Le Code pénal dit quelque chose. Monsieur Poyadi, avec Fon Yassimbe et sa clique, font ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont des voyous. Moi, personnellement, vous voulez une réponse?
Donc, en clair, vous allez continuer à manifester et à protester contre la réélection de Fon Yassimbe.
Et lui qui vous dit qu'il a été élu, il n'a jamais prouvé au G5 qu'il lui a demandé d'apporter la preuve de sa victoire.
Merci.
Les Américains et les collaborateurs de Trump ont demandé qu'on présente les résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Ils n'ont pas pu.
Merci.
Arrêtons l'imposture.
Merci, docteur Kwasi. On vous retrouve juste après cette courte pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et au menu ce soir, la libération des deux opposants au Togo, Madame Brigitte Adjamabo Johnson et Gérard Diossou, tous les deux membres de la plateforme de l'opposition dynamique POSRO, qui étaient incarcérés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Nos invités pour en débattre sont Dr Edem Assou Kwasi de la dynamique POSRO, David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, et nous essayons en vain depuis quelques instants de joindre Fabrice Péchézi, qui est directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral. Tous nos invités sont en ligne de Lomé au Togo et nous tenons à rappeler que le porte-parole du gouvernement togolais et ministre de la Communication n'a pas souhaité participer à ce débat. Il s'est excusé. Donc le gouvernement n'est pas représenté et nous allons donc nous adresser à nos deux autres invités qui sont avec nous pour l'instant. David Dossé, quand on écoute M. Atsu Kwasi avec des positions, je ne sais pas si je vais utiliser le mot radical, mais en tout cas, il continue de contester la réélection de Fon Yassimbe et affirme que les opposants vont continuer à manifester. Cela signifie qu'on doit s'attendre à un retour prochain de ces deux opposants libérés en prison et peut-être même à l'arrestation d'autres opposants.
Alors, une chose est certaine, c'est que en tant que citoyen, conscient du fait que le cadre électoral qui existe au Togo ne permet pas d'avoir des élections transparentes et crédibles, en tant que citoyen, donc, la lutte continue. Je ne sais pas quel est le point de vue des politiques. Je ne sais pas ce que la dynamique de Monseigneur Poto compte faire, mais en tant qu'acteur de la société civile, nous allons certainement continuer la bataille pour que le Togo puisse avoir des élections avec une commission électorale qui soit vraiment indépendante, avec des résultats qui soient proclamés bureau de vote par bureau de vote, avec un fichier électoral assaini, etc., etc.
Mais M. Dossé a juste précisé que pour le contentieux post-électoral, pour le gouvernement, le chapitre est clos complètement.
Je crois que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, des élections ont eu lieu en février 2020. M. Faure, Nassimbé, a été proclamé vainqueur pour un quatrième mandat. Et je crois que pour le gouvernement, effectivement, l'objectif est de clore ce dossier et de poursuivre le déroulement de ce quatrième mandat. Mais ce que moi je dis, c'est qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous avons d'ailleurs de ces élections, qui sont puisque nous ne sommes pas.
Allô, monsieur Dossé? Oui, la ligne n'est pas très claire avec vous. Allez-y, on espère qu'elle va s'améliorer.
Je reprends.
Oui.
Voilà, je disais donc qu'en tant qu'acteur de la société civile, et le Front citoyen Togo Debout avait fait un suivi.
Allô, monsieur Dossé, on va vous retrouver tout à l'heure. On va peut-être essayer de vous rappeler. Docteur Kouassi, vous m'entendez? Allô, docteur Kouassi?
Je vous entends, madame la journaliste.
Oui, en restant sur votre position, je disais tout à l'heure de ce qui consiste à dire que nous avons gagné les élections présidentielles, alors même que celui qui revendique cette victoire, l'ancien Premier ministre Kodjo Abeyomé, arrivé donc deuxième selon les résultats officiels, vit caché. Est-ce que vous ne risquez pas de rater d'autres occasions de marquer les points sur la scène politique? Il y a par exemple les élections régionales prévues l'année prochaine.
Madame la journaliste, je pense que il faut de la cohérence dans toute démarche et surtout quand il s'agit d'un État. Vous savez, l'élection du 22 février 2020 est la consécration de la feuille de route de la CEDEAO du 31 juillet 2018, faisant suite à plus d'une année de manifestations gigantesques des Togolais à travers le monde, qui a commencé le 19 août 2017 avec la manifestation du PNP.
Par Tikpi, organisée par Tikpi Achadam.
Cette élection était la consécration de cette feuille de route que la CEDEAO a dû négocier après l'échec du 28e dialogue politique au Togo. Parce que qu'est-ce que fait la famille Nyasimbe, le clan Nyasimbe, la dictature militaro-clanique Nyasimbe? On organise des élections frauduleuses, on assassine des Togolais à plusieurs centaines, sinon des milliers. Après, on organise un dialogue piégé où il faut aller légitimer les imposteurs. Et on continue à brutaliser le peuple, à le déposséder de tout.
Mais d'accord, vous contestez ces résultats, mais quelle est la solution aujourd'hui? J'ai parlé du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Kodjo Abeyomé, qui revendique cette victoire, mais qui n'est même plus au Togo. On ne sait pas où il vit aujourd'hui, alors qu'il est recherché par la justice.
Mais est-ce que vous trouvez normal, madame la journaliste, que quelqu'un gagne une élection, on va lui proposer des millions, d'ailleurs...
Ça c'est votre version, monsieur Kouassi, je ne sais pas, mais je vous demande simplement...
Le professeur Dossé même qui est en ligne avec moi, le 28 février 2020, j'ai le communiqué, je peux vous l'envoyer. Son mouvement, le Front citoyen Togo Debout, reconnaissait la victoire du président démocratiquement élu, docteur.
Mais certains diraient que Togo Debout et la coordination la dynamique Posero travaillent ensemble. Ce sont des alliés dans l'opposition. Certains Togolais ne considèrent plus Togo Debout comme un mouvement de la société civile.
Mais Togo Debout est un mouvement de la société civile. C'est le premier mouvement de la société civile togolaise. À tout seigneur, tout honneur, il faut le leur reconnaître. Le Front citoyen Togo Debout, c'est le premier mouvement de la société civile togolaise. Et je vous dis qu'en date du 28 février, ils ont sorti un communiqué pour dénoncer la violence avec laquelle les seniors ont été bastonnés. le régime de Faure Gnassingbé parce que les personnes de troisième âge ont répondu à l'appel du patriarcat.
D'accord. Aujourd'hui, on fait quoi, monsieur Kouassi? Il y a une élection régionale qui est annoncée l'année prochaine. Vous continuez à revendiquer la victoire pour celle passée, la présidentielle. Où va l'opposition? C'est quoi le plan d'avenir pour votre plateforme?
Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous voulez écouter les Togolais, c'est bien, mais si vous ne voulez pas écouter les Togolais, ça c'est autre chose. Pour les Togolais, il y a un contentieux électoral. Le 22 février 2020, ils ont voté pour qu'il y ait l'alternance au Togo et le président qu'ils ont choisi s'appelle Agbomé Mesan Kodjo. Faure Gnassingbé a volé. Les Togolais lui disent de céder pacifiquement le pouvoir. Maintenant, nous aujourd'hui, plus que l'élection du 22 février présidentielle, il s'agit de la lutte de la libération du Togo, la deuxième et véritable indépendance du Togo.
Merci.
Donc comprenez-nous, on est dans une lutte de libération du Togo.
Donc vous n'êtes pas concerné par les prochaines élections régionales, alors qu'il y a déjà eu une rencontre le lundi 14 décembre entre le pouvoir et la classe politique pour préparer ce scrutin.
C'est-à-dire, allons-y, ils disent que en inversant les résultats, ils disent qu'ils ont eu 72%, que nous avons eu 19,46% et que les autres, là, moins de 10%.
Merci.
C'est avec moins de 10%, bon, Faure Gnassingbé Ouattara, c'est la même histoire, Ouattara s'est fait lier avec 8% de l'électorat. Mais une chose est certaine, les Togolais ne se laisseront pas faire.
Merci, M. Kouassi. David Dossé, je vous demande, vous également, c'est quoi la perspective pour l'opposition, si, au moins pour ce qui concerne la dynamique Posro, puisque d'autres opposants, comme Jean-Pierre Fabre de l'ANC, ne parlent plus, ne tiennent plus le langage de la dynamique Posro, qui consiste à dire que nous avons gagné les élections. C'est quoi la perspective aujourd'hui alors qu'on prépare ces élections régionales?
Oui, avant toute chose, je voudrais rappeler que le Front Citoyen Togo Debout est bien une organisation de la société civile. C'est vrai que nous avons une posture militante que nous revendiquons. Nous nous intéressons à des questions politiques, mais cela ne fait pas de nous une organisation politique qui vise...
Pour le pouvoir, vous êtes classé parmi les soutiens de l'opposition ou sinon les alliés de l'opposition?
On peut le dire, nous on reconnaît notre posture aux côtés du peuple togolais en lutte pour que le Togo devienne un état de droit et un état démocratique. Ça, c'est une revendication et nous l'assumons. Alors pour ce qui concerne les perspectives, moi ce que je voudrais dire c'est que en tant que citoyens, nous devons poursuivre le combat pour que justement l'état de droit devienne enfin une réalité dans notre pays. Et cela suppose que tous les champs de bataille doivent être occupés. Nous devons poursuivre la lutte pour que, dorénavant, le cadre électoral soit assaini, pour que les prochaines élections, qu'elles soient régionales, qu'elles soient locales, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient législatives, qu'elles se passent dans de bonnes conditions, ce que nous n'avons encore jamais vu au Togo. Les dernières élections législatives, la dernière élection présidentielle, surtout, a été faite dans des conditions totalement inacceptables et antidémocratiques, et c'est ce que j'ai fait. Je me sois malheureusement coupé. Le Front Citoyen Togo Debout a fait un travail citoyen qui a démontré que, en février 2020, des procès-verbaux ont été signés, pré-signés, alors qu'on n'avait pas encore inscrit les résultats des différents candidats. Le Front Citoyen Togo Debout, avec des éléments de preuve, a montré que, notamment dans les casernes où il y avait des bureaux de vote, nous avions eu près de 50% de votes par dérogation, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont venus dire « Écoutez, moi je représente tel », et ces personnes ont pu voter.
D'accord, David Dossé. Pour vous, l'ancien Premier ministre Kodjo Abeyomé avait gagné cette élection de février 2020. Maintenant, il y a d'autres échéances, des prochaines échéances qui arrivent, et il y en a prévues l'année prochaine. Quelle doit être, d'après vous, la posture de l'opposition?
Alors, moi, en tant qu'acteur, je dirais tout simplement que l'opposition doit d'ores et déjà continuer à marteler le même message. Le cadre électoral doit être assaini. Parce que si nous organisons des élections régionales, législatives bientôt, dans les mêmes conditions que ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, il y a peu de chances que l'élection soit transparente. Et lorsqu'on veut construire une nation où les citoyens peuvent vivre ensemble en harmonie, il faut vraiment que le cadre électoral permette un jeu démocratique au niveau politique. Donc, l'institution doit continuer à travailler, à se serrer les coudes, ne surtout pas se décourager et continuer la bataille. Vous savez, tout ne se fait pas en une fois. Il y a des situations d'échec, mais cela constitue tout simplement des expériences sur lesquelles il faut bâtir quelque chose de nouveau, une stratégie nouvelle, et faire en sorte qu'on puisse vraiment arriver à...
Est-ce que d'après vous, le pouvoir est aujourd'hui disposé à aller vers de véritables réformes pour ces élections régionales, c'est-à-dire des réformes profondes telles que souhaitées par l'opposition ?
Quoi qu'il en soit, si on laisse le pouvoir seul, il ne fera jamais les réformes. Donc cela suppose qu'il faut faire un travail de terrain, il y a un travail de plaidoyer à faire. La communauté internationale, en dépit du fait qu'elle n'intervient pas beaucoup, elle a quand même son mot à dire. Nous avons rencontré les diplomates pour en revenir à l'affaire de l'arrestation de Mme Adjamagbo et de M. Diossou. Et nous avons entendu effectivement la communauté internationale dans ce qu'elle peut faire et dans ce qu'elle ne peut pas faire. Donc il y a un travail à faire et tout le monde est conscient du fait que...
Et quel est ce travail, en deux mots ?
Pardon ?
Quel est ce travail qui doit être fait pour que les réformes profondes soient apportées, les réformes électorales profondes soient apportées ?
D'abord, un travail de plaidoyer au niveau national et au niveau international. Ensuite, il faut enrôler la population togolaise. Vous savez, beaucoup d'actions sont faites, mais elles se limitent à la capitale, à Lomé. À l'intérieur du pays, si vous allez voir les paysans, ils ne connaissent pas le cadre électoral. Ils ne savent pas quelles sont les insuffisances de ce cadre électoral. Il y a un travail d'information à faire. Il faut reprendre le travail depuis la base, informer les citoyens. Et une fois qu'on aura cette masse critique de citoyens informés et suffisamment conscients du fait que les choses ne peuvent plus se faire ainsi, cela peut permettre certainement de faire pencher la balance de l'autre côté.
Merci beaucoup David Dossé. On va à nouveau marquer une pause, mais si on se retrouve pour la suite et fin de ce débat consacré au Togo.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Suite de notre grand rendez-vous sur le Togo, nous commentons et débattons de la libération la semaine dernière de deux opposants qui avaient été arrêtés 20 jours plus tôt. Et nous avons nos invités, Dr Edem Atsou Kwasi de la dynamique Monseigneur Posro, dynamique de l'opposition, David Dossé, premier porte-parole du Front Citoyen Togo, et je rappelle, nous n'avons pas pu avoir un représentant du gouvernement, le ministre de la Communication contacté n'a pas souhaité participer à ce débat, et nous avons aussi finalement renoncé à essayer de joindre Fabrice Pétiesi, qui est joignable, mais ne répond plus pour ce débat, que nous allons donc poursuivre avec nos deux invités. Docteur Edem Atsou Kwasi, vous dites que vous n'êtes pas concerné par les prochaines élections régionales, mais vous serez sans doute intéressé par les deux questions que je vais vous poser à présent, celle de savoir où se trouve Kodjo Abeyomé Kodjo depuis qu'il a fui en juillet dernier. Et aussi, est-ce qu'on peut avoir les nouvelles de Monseigneur Posro ?
De vous répondre à cette question, vous avez dit que j'ai dit que nous ne sommes pas concernés par les élections à venir au Togo. Ce n'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit que les élections, s'il faut les organiser, il faut qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire, le peuple a parlé le 22 février 2020, il a fait un choix, ça s'appelle Agbomé Messan Kodjo, ça s'impose si on veut parler de démocratie. Maintenant, madame la journaliste, si c'est on veut parler de dictature, d'état de non-droit et d'un état mafieux, là, on peut dire Fong Yassimbe, et il est là, et tous les mafieux du monde l'adoubent. Donc le peuple togolais ne reconnaît pas ce voyou, cet imposteur.
Pardon. Vos expressions, monsieur Kwasi, s'il vous plaît. On doit rester poli. Mais monsieur Kwasi. Oui, voilà.
Le choix des électeurs, il est quoi ?
Alors, si j'ai bien compris, vous ne participerez aux prochaines élections, vous ne participerez aux prochaines élections que si on rétablit, d'après vous, la vérité des urnes, qui est que Abeyomé Kodjo a gagné cette élection, la présidentielle de février dernier.
Oui, et puis, plus loin, madame la journaliste, plus loin, c'est que le peuple togolais, si c'est pour l'instrumentaliser, qu'il fasse un choix, et on dit autre chose, le peuple togolais ne se sent pas concerné. Il n'y a pas que moi. Il faut que les gens arrêtent de dire des choses qui ne concernent pas ce peuple. Est-ce que vous êtes allé au Togo pour voir l'indice de misère de nos populations? Quand des enfants en pleine capitale du Togo s'assiedent sur des briques, des parpaings à l'école.
D'accord.
La réalité, c'est ça.
Le manque d'infrastructures. Mais si on revient au régional, M. Kouassi, il y a certains de vos amis de l'opposition qui discutent déjà, je le disais, avec les autorités dans la perspective de cette élection.
Je veux vous dire quelque chose. C'est-à-dire, vous savez, Madame la journaliste, soit on est là et on dit que la politique, c'est pour le service du peuple, ou bien l'Afrique, c'est l'endroit où la politique, c'est un club de coterie qui dispose de s'amuser de l'avenir des communautés.
Merci.
Soit c'est le bien-être des peuples, alors là on écoute les peuples, ou soit c'est quelques amis qui se regroupent et qui s'amusent sur le dos des peuples et les méprisent. Si c'est cette lecture que vous avez, je consens et je m'abstiens de parler, Madame la journaliste. Mais si c'est pour le bien-être des peuples, alors je dis il y a une question de cohérence.
Merci.
Quand un peuple fait un choix et qu'on ne le respecte pas, est-ce que ce peuple-là, on peut encore l'appeler à d'autres choix? Et ce que je vous dis, c'est une récurrence.
Ça vous appelez au boycott de cette élection si votre candidat, élu d'après vous par le peuple togolais, n'est pas rétabli comme président de la République?
Ce que je voudrais dire de façon très claire et simple, c'est que pour une bonne majorité des Togolais, aujourd'hui, le Togo est dans une lutte de libération nationale, dans une lutte de sa véritable indépendance.
Merci.
Parce que là, les élections n'ont plus de sens. Je vous ai dit, le 22 février, la consécration de la feuille de route du 31 juillet 2018 de la CEDEAO.
Merci, Monsieur Kouassi. On va écouter à présent David de Savant, de vous donner la parole pour la conclusion. Alors, en un mot, sur cette autre affaire de détournement de 500 milliards de francs CFA dans la commande des produits pétroliers au Togo, ça faisait partie des raisons pour lesquelles les deux opposants libérés voulaient manifester. Où en est-on aujourd'hui? En deux mots, s'il vous plaît.
Justement, très bonne question, puisque nous, de la société civile, nous avons demandé à ce que l'audit qui a été diligenté par le gouvernement soit publié, afin que nous puissions savoir exactement les conclusions des experts. Nous avons rencontré également des personnalités de la communauté internationale qui sont en attente des résultats de l'audit et que devient cet audit? Quelle est la suite donnée par le gouvernement à cet audit? Point d'interrogation.
Le gouvernement ne veut pas rendre public cet audit, si j'ai bien compris.
Ben apparemment, comme nous le craignons, malheureusement, il risque encore d'y avoir de l'impunité dans cette affaire de détournement, dans cette affaire pétrolière.
Et pour revenir donc à notre débat, M. Dossé, comment éviter cette tension et cette crise politique permanente au Togo à laquelle on assiste depuis 2005?
Je pense qu'il faut qu'on fasse des avancées notables au moins déjà en ce qui concerne le cadre électoral. Vous savez, l'expression populaire dans un jeu démocratique, elle se fait à travers des élections transparentes. Et la société civile a toujours martelé le fait que les élections au Togo sont loin d'être transparentes. Il y a suffisamment de preuves pour étayer cette affirmation. Si vraiment ce qui s'annonce, c'est-à-dire les élections régionales, doivent encore se faire dans les mêmes conditions d'opacité, le peuple risque de rester à la maison, de ne pas aller voter, donc de ne pas exprimer ce qu'il pense par rapport aux prochains dirigeants, et on risque de revenir encore dans des élections avec contestation, et le cercle vicieux va perdurer.
De l'instabilité.
Absolument. Si
Merci.
Nous voulons vraiment sortir de ce cercle vicieux, et c'est ce que pense le Fonds citoyen Togo Debout en tant qu'organisation de la société civile, il faut assainir le jeu démocratique et cela passe par des élections transparentes. Il y a un certain nombre de conditionnalités qui peuvent permettre d'améliorer le jeu électoral. Nous l'avions déjà dit par le passé, nous allons certainement continuer de le marteler et il revient au pouvoir de faire un effort, notamment celui, je parle du critère qui consiste à proclamer les résultats par bureau de vote.
Merci.
Le Front Citoyen Togo Debout, ça a été son cheval de bataille. Nous l'avons dit à l'Union internationale qui a passé le message, mais ça a été un refus catégorique de la part du pouvoir.
Merci beaucoup. En deux mots, docteur Atsou Kwasi, comment sortir de cette crise permanente dans votre pays ?
D'accord. En tant que ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine des Togolais de la 6e région, chargé des institutions de la République et porte-parole du gouvernement légitime du Togo, j'estime que le gouvernement sortant illégitime et de fait doit avoir la posture basse et annuler les procédures judiciaires iniques qu'elle a initiées pour criminaliser l'opposition politique, notamment la principale force politique du Togo, la dynamique Monseigneur Ouattara, dont les leaders, à savoir le président démocratiquement élu, et contre qui ils ont lancé un mandat d'arrêt international pour le mettre sous été noir, Madame Adjamagou, la coordinatrice générale Gérard Diossou, l'assistant personnel du patriarche Monseigneur Ouattara, mettra le retour. Est-ce que je peux terminer ?
Je suis désolé, mais monsieur, je vous avais dit quelques mots, donc l'émission est terminée. Je suis vraiment navré, docteur. Merci d'avoir été avec nous et restez sur Africa Radio.